Chapitre 47. Ludivine conduisait, le téléphone coincé entre l'épaule et l'oreille. « Mon colonel, Dieter Ferry avait construit une communauté où il leur avait appris à vivre avec leurs pulsions, même les pires, à devenir des criminels, mais fort de sa propre expérience, il leur avait aussi enseigné à ne pas se faire prendre. Il est décédé il y a 6 mois, en avril dernier. Ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Et là, ils ont pété les plombs, probablement guidés par Gert Brussin, la brute de la bande. Ils étaient avides de revendications, galvanisés par 30 ans de vie repliée sur eux-mêmes, sur leurs vices. Brussin a perdu la notion du secret. Il a voulu rassembler ses troupes et rendre sa cause publique. Je pense que Dieter Ferry tenait tout son petit monde. Il fixait le cadre, mais ça a explosé à sa mort. » Aprican émit un son qui ressemblait à une approbation. « Continuez, » dit-il. Brussin a alors créé son site internet pour attirer tous les tordus de la planète. Il a discuté avec eux, et lorsqu'il tombait sur quelqu'un qui lui paraissait correspondre, il l'invitait dans les salons privés du site. C'est comme ça qu'il a recruté Elliot Monroe et le tueur en Espagne, tout comme Joseph Selima. Des solitaires, des paumés et des détraqués. Il les a séduits avec son discours rassurant, déculpabilisant, qui rejetait la faute sur la société. Il leur a offert d'entrer dans une nouvelle famille, forte. Pendant ce temps, il a expédié ces 2 rejetons du hameau, dans la nature, pour qu'ils montrent l'exemple. Victor Mag et Cyril Capucin. Mais pour ce dernier, le fragile du groupe, Brussin veille. Il est derrière lui, il le guide, et il en profite pour disséminer ses propres messages, ses appels au droit d'exister, à la différence. J'appelle Satori et Villacoublay. Nous allons affréter les hélicos. Si vous vous maniez vent de cœur, vous pouvez venir. Vous avez mérité votre place pour assister à leur arrestation. Non, mon colonel, pas encore. Nous n'avons pas l'adresse de Capucin. Si on intervient à Pestilence, Capucin l'apprendra et il risque de disparaître. Nous avons encore une piste à approfondir pour remonter jusqu'à lui. Je crois qu'il doit être du côté de Verneuil en Halate. Magali a une borne téléphonique régulièrement activée là-bas et je sais ça. Vous avez quoi en tête? Dites à Seignon de revenir. Personne ne sait chercher sur Internet comme lui. Je voudrais qu'il creuse les adresses possibles de tous les habitants du hameau. Ils ont peut-être acheté un appart en commun en région parisienne. Ça pourrait être la planque qu'on recherche. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps? Interrogez encore une personne. Elle a peut-être des informations sur Dieter Ferry et sur Brussin. Quelque chose qui nous aurait échappé. Je vous tiens au courant. Je vous laisse jusqu'à demain midi. Ensuite, si nous n'avons rien, le GIGN intervient à Pestilence. Et nous publions le signalement de Capucin dans tous les médias. Il ne pourra pas aller bien loin. Ludivine raccrocha. Elle devait faire vite. Aprican voulait un résultat, se couvrir. Mais la jeune femme partageait l'avis de Michaelis sur Étoile E. Il voulait frapper fort. S'il venait à être arrêté, Capucin n'aurait alors plus rien à perdre. Il était le bras armé de Brussin, l'homme à intercepter au plus vite. L'auteur Andrea vivait dans un minuscule pavillon à la sortie d'Evry, dans un quartier résidentiel tranquille, mais vétuste, un peu plus loin que les bars HLM. Les jardins n'étaient pas très bien entretenus. Certaines façades arboraient des graffitis, et une des maisons de la rue était abandonnée depuis assez longtemps pour s'être transformée en taudis, digne des pires squats de crackheads. Ludivine se dit qu'elle n'aurait pas aimé élever des enfants ici. Pour ça, faudrait déjà en avoir. La jeune femme espérait beaucoup de cette rencontre. Par-dessus tout, elle espérait que l'auteur Andrea serait resté cette collectionneuse acharnée de coupures de presse concernant le fameux Dieter. Ferry avait été un homme prudent. Il ne devait pas exister grand-chose à son sujet sur Internet. L'auteur était la gardienne de son histoire. « T'emballe pas, » se modéra Ludivine en sortant de sa voiture. « C'est juste une vieille dame qui a connu Ferry. » et qui en a eu assez peur pour suivre sa carrière ensuite. La gendarme s'étira, elle était fourbue. Plus de 2 heures de route et d'embouteillage pour atteindre la banlieue sud. L'après-midi touchait à sa fin, et la nuit tombait rapidement. Les lampadaires diffusaient une lueur jaune, presque maladive, sur la rue. Ne trouvant pas de sonnette sur le petit portail, Ludivine poussa le portillon et traversa le modeste carré de gazon jusqu'à la porte du pavillon. Les volets étaient mi-clos et de la lumière filtrait sur les côtés. Elle pressa la sonnette et attendit. La rue était très calme. Pas un passant, ni un bruit, sinon la rumeur lointaine de la circulation. Elle perçut un bruit derrière la porte. Un traînement. Des chaussons sur le sol, imagina-t-elle, sans peine. Mais la porte ne bougea pas. « C'est la gendarmerie, Madame Andrea. Ne vous inquiétez pas, je voudrais juste vous poser une ou deux questions. N'ayez aucune crainte, je suis une femme et je suis seule. » Ludivine savait qu'avec la recrudescence d'arnaques visant les personnes âgées, ces dernières devenaient de plus en plus méfiantes lorsqu'on sonnait à leur porte, même à l'égard des forces de l'ordre, et il fallait les rasséréner longuement avant que la confiance n'apparaisse. Il y eut un déclic de la serrure, et le battant s'entr'ouvrit. Ce n'était pas le visage fatigué d'une femme, comme elle s'attendait à le découvrir, mais celui d'un jeune homme qui se présenta à la gendarme. « C'est pourquoi ?» demanda-t-il. « Je cherche à parler à Madame Lotte Andrea. Est-ce qu'elle est là ?»« Non, pas pour l'instant. C'est à quel sujet ? Il s'est passé quelque chose ?» À chaque fois, c'était le même scénario, songea Ludivine. Quand les gens ouvraient à des gendarmes, ils pensaient que c'était pour s'entendre annoncer la mort d'un proche. « Non, mais c'est assez urgent. Je peux peut-être vous aider, alors ?»« Je ne pense pas. Vous êtes un membre de sa famille ?»« Son petit-fils. Vous pourriez me dire quand elle va rentrer ?» Le garçon regarda sa montre. Il avait environ 25 ans, pour ce que Ludivine en voyait. Il arborait une casquette et un pull à grosse maille. Pas très grand, les traits banals. Un garçon de banlieue parmi d'autres, qui tentait de se démarquer, d'exister, avec un semblant de look. Elle sera là d'ici un quart d'heure, je pense. Une ambulance la dépose. Vous voulez l'attendre à l'intérieur ? Ludivine rangea sa carte. Elle avait un peu froid aux mains. Aussi, elle accepta. Je suis désolé, ce n'est pas rangé, s'excusa le jeune homme. L'auteur vit surtout dans sa chambre. Alors je mets un peu le fouillis dans le reste de la maison. On va vous trouver une place sur une chaise du salon, venez. L'intérieur sentait le renfermé, et un soupçon de pourriture. De la vaisselle pas faite depuis trop longtemps, ou une poubelle oubliée. Le salon était rustique, une décoration d'un autre temps, qui ne devait plaire qu'à l'auteur Andrea. Mais son petit-fils y avait fait son trou, en répandant ses magazines automobiles et de jeux vidéo, ainsi que de vêtements, et même un plateau repas. Le jeune homme passa devant et entra dans la lumière. Il portait un short long de boxeur et des savates qui traînaient sur le carrelage. Ludivine remarqua tout de suite ses mollets de poulet blanc et glabres. « Assurez-moi, elle a rien fait de mal, mamie » demanda-t-il en tirant une chaise. Il portait sa casquette pour dissimuler un crâne dégarni, rasé. Il a une mâchoire tout à fait normale, remarqua Ludivine pour se rassurer. Il était tout sec, tout en air. Il pivota pour la regarder. Regard lisse, vitreux, vide. Vous, commença-t-elle un peu troublée, vous vivez ici ?
Oui, une partie du temps. Elle a la gentillesse de m'aider à construire mon rêve.
Ah ?
Lequel ?
J'ai commencé un nouveau métier depuis plusieurs mois. Mais j'ai mis toutes mes économies dans mon instrument de travail. Je n'ai plus de quoi payer un loyer, pas encore. Ça va venir. C'est gentil à elle de vous soutenir. La discussion était mécanique. Une partie de ping-pong entre personnes absentes, l'esprit occupé ailleurs, par autre chose de bien plus important. Le garçon jeta un coup d'œil vers le couloir qui partait à sa droite, hors du champ de vision de la gendarme.
Hein, je l'embête pas trop, je suis souvent sur la route.
« Hein ? Et vous faites quoi ?» Ludivine s'efforçait de garder son calme, ne surtout pas trahir son émoi. « Je suis chauffeur routier. » Cette fois, son cœur se mit à battre si vite que la jeune femme eut l'impression qu'il cognait contre ses vêtements et allait la trahir. Ce garçon était l'incarnation exacte du profil dressé par Michaelis. Il leva les yeux vers elle, toujours souriant. Leurs pupilles se fixèrent avec intensité, comme deux aimants négatifs face à face, se repoussant avec la même force invisible. Le sourire changea à peine. Il devint légèrement plus crispé, plus factice. Elle l'avait reconnu malgré la casquette. C'était lui sur la photo floue du camion au péage. Cette fois, plus aucun doute possible. Il ne cligna pas des paupières. Pendant les 10 longues secondes durant lesquelles ils se scrutèrent sans bouger, il ne s'y a pas une fois. Il savait.